Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Voilà plus d'un an maintenant que les élus de Seine-Saint-Denis réclament à corps et à cri un rééquilibrage des politiques publiques dans leur territoire. Et c'est ainsi qu'Édouard Philippe, accompagné de plusieurs de ses ministres, présente depuis ce matin des mesures censées adapter donc l'action de l'État aux enjeux de ce département rongé par la pauvreté et des carences structurelles.
Dans votre journal également, une première réunion de concertation sur la réforme des retraites était organisée ce matin avec les syndicats de la SNCF, du moins ceux qui n'avaient pas choisi de boycotter la rencontre.
PSA et Fiat Chrysler ont officialisé ce matin leur projet de fusion. Une bonne nouvelle, estime Bruno Le Maire, même si le ministre de l'Économie et des Finances prévient que la préservation des sites industriels et de l'emploi seront la priorité du gouvernement. Un énorme pavé dans la mare, en moins de 280 signes, le réseau social Twitter a annoncé qu'il n'accepterait plus aucune publicité à caractère politique où que ce soit dans le monde. Enfin, comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, dans une vingtaine de minutes, Aurélien Pradié, député du Lot et secrétaire général de Les Républicains. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Nos vies en série avec la philosophe Sandra Laugier. Elle interroge ce nouvel espace de discussion, ce lieu d'un dialogue démocratique qui se joue, d'après elle, à l'écran, entre les personnages, les héros des séries aujourd'hui et les spectateurs.
Merci et à tout à l'heure. On ne demande pas la charité, mais l'égalité. Voici résumé d'une phrase par une élue communiste. L'attente aujourd'hui des élus de Seine-Saint-Denis qui tous, quelle que soit d'ailleurs leur obédience politique, dressent le même constat implacable s'agissant de leur département. L'État donne moins par habitant pour la justice, la police ou l'éducation dans ce territoire qui pourtant, en plus de cumuler d'importantes difficultés, se distingue par cette particularité accablante, celle de territoire le plus pauvre de France. Et c'est donc pour corriger cette rupture d'égalité républicaine que le gouvernement d'Édouard Philippe en tête, précédé sur le terrain par ses ministres de l'Intérieur, du Logement, de la Justice, de la Santé et de l'Éducation, présente depuis ce matin donc une batterie d'une vingtaine de mesures censées corriger les inégalités de traitement de l'État. Alors, échaudé par les promesses jusqu'à présent non tenues du candidat Macron, qui lors de sa campagne présidentielle avait assuré vouloir lutter contre l'assignation à résidence dans les quartiers populaires, mais aussi par l'échec du plan Borloo, lequel devait être un marqueur fort de la stratégie présidentielle et puis qui aura finalement été rapidement enterré l'an dernier par le chef de l'État lui-même. On imagine évidemment que toutes les annonces du gouvernement ce matin seront passées au crible par les élus. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place à Bobigny, on connaît désormais le détail de ces mesures, dont la plus marquante, sans doute Rosalie, concerne l'attribution d'une prime de 10 000 euros aux fonctionnaires, à condition de rester au moins 5 ans en poste.
Oui, alors Édouard Philippe vient tout juste de commencer son discours ici à la préfecture à Bobigny. Il doit annoncer effectivement cette prime pour les agents de l'État qui restent sur le territoire. Prime de fidélisation censée faire rester les enseignants, notamment aujourd'hui nombreux à quitter le département rapidement. Mais pour Nadira, une habitante de Bobigny, mère de deux garçons, ça n'est pas ça la solution.
Je suis pas sûre que ce soit le bon moyen. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose de financier qu'il faut faire. Je pense qu'il faut plus les encadrer et mettre justement de la sécurité dans les écoles et pas forcément de l'argent. C'est pas avec une carotte qu'on va pouvoir, si vous voulez, redynamiser le 93. Je ne pense pas.
Des habitants sceptiques face à cette série de mesures, 150 policiers supplémentaires, des crédits pour les hôpitaux, des postes de greffiers et de magistrats, attractivité, sécurité, éducation, santé, justice. Voilà les 5 secteurs ciblés par le gouvernement qui veut rendre l'État plus fort en Seine-Saint-Denis, territoire hors norme, vient de dire le Premier ministre. Mais on ne va pas assez loin pour Hervé Haussan, le secrétaire général de l'Union départementale CGT 93.
Une annonce politique forte, ça aurait été de dire, écoutez, on va tous se mettre autour de la table et on va discuter. On nous prône le dialogue social, la concertation, etc., etc. Mais moi, ce que je vois, c'est que, bon, voilà, on vient sur un plan de communication, on va un peu faire de saupoudrage. Bien sûr, il y a des annonces, mais c'est largement insuffisant par rapport aux problématiques qui sont posées. Il faut vraiment aller dans le fond des choses et c'est pas ce que fait le gouvernement.
Et si certains élus reconnaissent un effort du gouvernement, une prise en compte des problèmes du territoire, d'autres dénoncent aussi un joli plan de communication à quelques mois des municipales.
Merci Rosalie Lafarge en direct de Bobigny ainsi qu'à Stéphane Beaufils pour les moyens techniques. La SNCF a confirmé ses prévisions de trafic pour le pont de la Toussaint sur l'axe atlantique, toujours perturbé par une grève dans un centre de maintenance de banlieue parisienne. Il y aura bien 8 TGV sur 10 à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain sur l'ouest et le sud-ouest. Et puis s'agissant de la première réunion de concertation sur la réforme des retraites organisée avec les syndicats de la SNCF, celle-ci s'est tenue ce matin avec le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari et le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye. En revanche, seule l'UNSA Ferroviaire et la CFDT étaient présentes autour de la table. La CGT Cheminot, premier syndicat de la compagnie, et Sudrail, troisième syndicat de la SNCF, ayant tous deux choisi de boycotter la réunion. Diane Berger, bonjour.
Bonjour.
Sait-on ce qui est ressorti, Diane, de cette réunion?
Les syndicats présents évoquent une rencontre très cordiale où ils ont pu réaffirmer leurs revendications. La plus importante, c'est la clause du grand-père demandée par la CFDT. C'est-à-dire que le régime spécial des cheminots soit maintenu pour tous ceux entrés dans l'entreprise avant le 31 décembre 2019, avec la possibilité donc de partir en retraite anticipée. Les personnes recrutées ensuite cotiseront au régime universel des retraites par points. Le haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye n'est pas séduit par cette proposition, mais elle est sur la table et les deux dirigeants syndicaux présents, Didier Aubert pour la CFDT et Didier Matisse pour l'UNSA Ferroviaire, espèrent toujours une concession du président de la République. Les syndicats ont également abordé les problématiques liées aux carrières hachées, les basses pensions de certains cheminots, la pénibilité des métiers du ferroviaire, mais surtout ils retirent de cette matinée un calendrier de négociations pour désamorcer le conflit social qui s'annonce. Le gouvernement a convenu avec eux de deux rencontres bilatérales. Elles seront organisées très rapidement, d'ici le 22 novembre, soit deux semaines avant le 5 décembre, date à laquelle plusieurs syndicats de la SNCF ont appelé à la grève illimitée. L'enjeu donc pour l'exécutif, réamorcer un peu de dialogue social d'ici là, après un automne déjà explosif. L'UNSA Ferroviaire n'exclut pas de retirer son préavis de grève du 5 décembre, si elle obtient satisfaction au cours des prochaines rencontres. La CFDT, elle n'a pas encore appelé à la mobilisation, mais elle pourrait rejoindre le mouvement si les choses tournent mal.
Merci Diane Berger. Alors à deux mois justement de ce mouvement de grève tant redouté du 5 décembre que vous évoquiez, mais aussi à quelques semaines seulement de l'an 1 de la mobilisation des Gilets jaunes, l'objectif premier de l'exécutif est de ne surtout pas ouvrir de nouveaux fronts, d'où ce changement de stratégie radicale de la part de l'exécutif en donnant par exemple davantage de manœuvres donc aux partenaires sociaux, sans pour autant d'ailleurs abandonner la poursuite des réformes en cours. Enfin, à mi-mandat reste évidemment aussi la stratégie électorale pour 2022 et c'est probablement dans ce contexte que doivent se lire les dernières sorties présidentielles sur la laïcité, le port du voile et l'islam. La dernière en date est d'ailleurs à lire ce matin dans le très long entretien que le chef de l'État a accordé à Valeurs Actuelles. Sur 12 pages, Emmanuel Macron y parle notamment de l'échec, selon lui, de notre modèle d'intégration qui se conjugue avec la crise de l'islam. Il y condamne, je cite, la sécession communautariste. Et insiste également sur la nécessité de mieux lutter contre l'immigration illégale. Quant à l'idée d'échanger avec l'hebdomadaire conservateur, sinon très droitier, l'Élysée argue de sa volonté de parler à tous les Français, y compris dans les espaces politiques qui ne sont pas forcément les siens. Or là encore, dans la perspective de la prochaine présidentielle, comment ne pas se poser la question de la stratégie, en l'occurrence celle de l'exercice dangereux consistant jusqu'à présent à réduire le jeu politique à un simple choix binaire, car en cas de prochain front républicain anti-rassemblement national, rien ne dit aujourd'hui que le report de voix se fera nécessairement dans les mêmes proportions. Quoi qu'il en soit, et pour l'heure, toute l'énergie du parti présidentiel est avant tout consacrée à se frayer un chemin pour les prochaines municipales, et notamment en divisant la droite et la gauche. Plusieurs candidats PS ont d'ores et déjà reçu le soutien de La République En Marche, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou bien encore dans la Drôme. Enfin, dernier exemple en date de ces doubles investitures à Toulouse, là-bas, c'est le maire sortant Les Républicains, cette fois-ci Jean-Luc Moudenc, qui se présentera donc sous la double étiquette LR et LREM. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Alors on le sait, Pierre, les élections locales donnent souvent lieu à des stratégies parfois ambivalentes, sinon contradictoires, pouvant donner lieu à des frictions. Or, ce sera sans doute encore plus vrai avec ces municipales de 2020.
Oui, dépasser les clivages nationaux, voilà l'objectif affiché pour ces municipales par les Républicains comme par les marcheurs. Pour les uns, il s'agira de conserver des fiefs traditionnellement à droite, RPR, UMP, LR. Pour les autres, tout simplement, eh bien, tenter d'exister dans un scrutin local qui s'annonce déjà déjà défavorable à la majorité présidentielle, d'où l'intérêt de passer des alliances. Mais pour les Républicains, cela pose des questions, même une certaine contradiction. Comment incarner des alliances avec La République En Marche dans des territoires historiquement à droite, alors que l'objectif est de préparer l'alternance en 2022. À Toulouse, par exemple, il était impossible de ne pas donner l'investiture au maire qui doit normalement bénéficier de la prime au sortant. Alors se rallier à un candidat Macron compatible apparaîtra comme une décision raisonnable pour les militants, pour les fidèles, mais qui semblera peut-être plus opportuniste pour les sympathisants de droite et du centre qui se cherchent, comme l'explique le politologue Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas.
Pour un militant qui est à l'intérieur, qui sait comment ça fonctionne et qui sait qu'il est important de tenir la mairie de Toulouse ou tenir la mairie de Nice, ce n'est pas un problème. Pour un sympathisant qui, lui, cherche dans le parti davantage eh bien, une possibilité d'alternance pour 2022, évidemment, tout ça peut être conçu comme troublant et le Rassemblement national aura beau le dire, il y a des alliances locales et comme il y a des alliances locales, ça prouve bien qu'il y a également des atomes crochus et que la vraie alternance, eh bien, ce n'est pas les Républicains. Donc tout ça, évidemment, pour la droite parlementaire, eh bien, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux.
Voilà donc une stratégie, les Républicains et LREM, qui va se dessiner au cas par cas, mais cela n'empêchera pas des lignes de fracture plus tranchées dans le débat national, comme en ce moment sur la question du voile lors des sorties scolaires.
Merci Pierre Neveu. Comme attendu, PSA et Fiat Chrysler Automobile ont officialisé aujourd'hui leur projet de fusion, lequel doit donner naissance au quatrième constructeur automobile mondial. Et quand bien même les porte-parole des deux groupes se sont refusés à tout commentaire concernant le calendrier des négociations et des éventuelles annonces, certains éléments semblent d'ores et déjà connus. Les deux entreprises détiendront à parité ce nouveau groupe de quelques 50 milliards de dollars et qui sera dirigé par l'actuel président du directoire de Peugeot, tandis que le patron de FCA en assurera la présidence. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors cette opération, rappelons-le, s'inscrit dans le contexte d'une profonde restructuration du secteur automobile mondial, lié notamment aux nouveaux enjeux environnementaux ainsi qu'au durcissement de la réglementation. Mais évidemment, comme dans chaque projet de fusion, il convient de prendre garde à certains mots, quel qu'en soit d'ailleurs l'orthographe. En l'occurrence, PSA et FCA ont évalué à 3,7 milliards d'euros les synergies annuelles générées par leur rapprochement. Synergies dont on sait, Hakim, qu'elles sont rarement synonymes d'embauche mais plutôt de licenciement. Existe-t-il aujourd'hui des garanties pour protéger l'emploi ?
Alors si Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, salue l'opération ce matin, il prévient que l'État, qui détient 12% du capital de PSA, sera particulièrement vigilant. Bercy demande notamment des garanties sur la localisation des usines et des centres de décision, ainsi que l'engagement que la future entité soutienne le projet européen de batterie pour réduire notre dépendance face à la Chine dans ce secteur. Même ton du côté des syndicats qui, eux, vont demander des précisions sur l'emploi à Carlos Tabarès, le PDG de PSA. Patrick Michel, secrétaire du comité du groupe Monde, force ouvrière chez PSA.
On ne peut pas imaginer que Carlos Tavares ait signé sans avoir un horizon au moins à 3 ans. Tout bon industriel possède cela. Donc à l'occasion de ce mariage, nous lui demanderons effectivement de nous faire des garanties d'emploi dans chaque usine, dans chaque pays, et de nous dire quel véhicule il y fabriquera, pour quelle marque et en quelle quantité.
En attendant, c'est surtout sur les postes comme le marketing que les risques de suppression de postes sont les plus importants à court terme, estime Patrick Michel.
Il y aura d'autres domaines, comme par exemple le marketing, où là, bah, effectivement, on l'a vu déjà avec l'alliance avec Opel Vauxhall, malheureusement, les équipes seront, je pense, rétrécies. On sera très vigilants là-dessus. Et nous demanderons à PSA de faire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est toujours avoir des départs volontaires avec des primes conséquentes et éviter les licenciements secs.
Rappelons que pour sortir de la faillite, Carlos Tabarès a supprimé 30 000 postes depuis 5 ans lors de son arrivée à PSA à travers ses deux plans de restructuration, Push to Pass et Back in the Race.
Merci Hakim Kasmi. Un nouveau revers pour l'avionneur américain Boeing. Le constructeur a annoncé ce matin que des fissures avaient été découvertes sur une cinquantaine de ses appareils 737 NG, des observations qui nécessitent bien entendu leur immobilisation à des fins de réparation. Toujours aux États-Unis, la Chambre des représentants à majorité démocrate votera pour la première fois aujourd'hui en séance plénière pour décider de la suite de l'enquête pour impeachment contre le président américain. Les députés espèrent ainsi forcer la coopération de l'administration de Washington. Rappelons que depuis la fin septembre, l'opposition cherche à établir si Donald Trump a abusé de son pouvoir à des fins personnelles en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur son rival Joe Biden. Personne n'a oublier la prolifération des publicités mensongères lors de l'élection présidentielle américaine en 2016. Et visiblement surtout pas Twitter. Le PDG du réseau social a annoncé hier qu'il ne diffuserait plus de publicités à caractère politique à partir du 22 novembre prochain. Une approche qui contraste fortement avec celle du géant Facebook, qui lui se refuse toujours à vérifier l'exactitude du contenu des publicités conçues par des personnalités politiques. Les précisions de Loïc Pialin.
Plutôt que de contrôler la véracité de chaque publicité d'un candidat, Twitter décide donc de toutes les interdire. Les candidats ne devraient pas payer pour que leur message soit entendu, ils doivent plutôt mériter qu'on les écoute, se justifie la plateforme. Financièrement, le risque est limité. L'an dernier, lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, les publicités à caractère politique n'ont rapporté que 3 millions de dollars au réseau social. Les équipes de campagne préfèrent Facebook ou Google. La décision de Twitter n'empêchera pas non plus un politicien de véhiculer des contre-vérités. Il n'aura qu'à les poster sur son compte. Plusieurs démocrates ont en tout cas salué le choix du réseau social, un choix à l'opposé de celui de Facebook, qui refuse de censurer une publicité au nom de la liberté d'expression. L'interdiction a également fait réagir l'équipe de campagne de Donald Trump, très active sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, elle critique une décision stupide qui va priver Twitter de millions de dollars de revenus et entraver la parole des conservateurs.
Même si personne ne s'étonnera que des exactions soient commises en temps de guerre, celles révélées dans le rapport que publie aujourd'hui l'organisation Human Rights Watch ont de quoi effrayer. On y apprend notamment que des groupes paramilitaires afghans soutenus par les États-Unis opèrent en toute impunité lors de raids nocturnes, exécutant sommairement des civils, de véritables escadrons de la mort, en grande partie recrutés, entraînés, équipés et supervisés par la CIA. Et en plus de dénoncer donc ces crimes de guerre, eh bien l'ONG accuse les gouvernements, à la fois américains et afghans, non seulement de fermer les yeux, mais pire encore de soutenir ces actions au prétexte de lutter contre les talibans et les terroristes. Les précisions de Nadine Epstein.
Dans son rapport titré « Ils en ont tué beaucoup comme cela », Human Rights Watch assimile les exactions commises par les forces d'intervention afghanes à des crimes de guerre. Les forces afghanes soutenues par la CIA ont procédé à de nombreuses arrestations, disparitions forcées, attaques d'établissements de santé et meurtres. Entre la fin de l'année 2017 et l'été 2019, des forces d'intervention rapide cherchant des insurgés ont investi des zones rurales, notamment contrôlées par les talibans. Elles ont fouillé les maisons, arrêté et mis au secret des hommes. Certains d'entre eux ont été assassinés. Quelques détails insoutenables sont rapportés par l'ONG, par exemple en août 2019 dans la province de Paktia, au sud-est de l'Afghanistan, à l'occasion de la fête familiale de l'Aïd, un dignitaire tribal de 60 ans a reçu une balle dans l'œil et son jeune neveu de 20 ans étudiant une balle dans la bouche par une unité paramilitaire qui au total a abattu 11 personnes. Ça ressemble fort à un escadron de la mort. Depuis 2001, au nom de la lutte antiterroriste, la CIA recrute, équipe, entraîne des forces paramilitaires afghanes en employé pour combattre Al-Qaïda et les talibans et le groupe État islamique depuis 2014. En accentuant ses opérations contre les talibans, la CIA a permis à des forces afghanes peu contrôlées de commettre des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées et a fait vivre des communautés entières dans la crainte de raids nocturnes et de frappes aériennes indiscriminées, écrit l'auteur du rapport et la porte-parole de Human Rights Watch de conclure. Les gouvernements américains et afghans devraient mettre fin à cette maladie et démanteler toutes les forces irrégulières. Fermez les guillemets.
Au moins 71 morts, parmi lesquels de nombreux pèlerins. C'est le dernier bilan de l'incendie qui s'est déclaré ce matin à bord d'un train de passagers au Pakistan après l'explosion accidentelle de bonbonnes de gaz. Enfin, ce devait être le jour J pour la Grande-Bretagne, celui du grand départ. Et finalement, après que le D-Day a de nouveau été reporté au 31 janvier 2020, cette journée se sera transformée en celle du lancement d'une campagne électorale imprévisible en vue des élections anticipées du 12 décembre prochain. Comme chaque jeudi, à présent, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Aurélien Pradier, député du Lot et secrétaire général de Les Républicains. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane. Bonjour. Première question, monsieur Pradier. Nous évoquions dans le journal la candidature à Toulouse du maire sortant Jean-Luc Moudenc sous la double étiquette, donc LR et LREM. Est-ce qu'on n'entretient pas là la confusion des genres politiques lorsque, en plus de son propre parti, donc aujourd'hui dans l'opposition, eh bien on reçoit également le soutien de la majorité présidentielle.
Je veux souhaiter bonne chance à Jean-Luc Moudenc, qui est un très bon maire de Toulouse, dont je connais les valeurs humaines, personnelles et le travail qu'il a fait pour cette ville. J'ai été maire moi-même pendant des années. Ce qui compte lorsqu'on est maire, c'est de rassembler sa population. Ce qui compte, c'est pas d'être le maire d'un camp ou d'un autre, c'est d'être le maire de sa ville tout entière rassemblée. Et il faut déconnecter les considérations nationales des considérations locales. Je le dis en connaissance de cause parce que je l'ai fait comme maire durant des années. Ce que j'observe, et c'est naturel, c'est que Jean-Luc Moudenc est à l'évidence le meilleur candidat pour cette ville et que La République En Marche, n'ayant pas la possibilité de trouver un bien meilleur candidat, se range derrière le meilleur candidat qui, en l'occurrence, est un candidat Les Républicains. C'est une très bonne nouvelle. Ça démontre non seulement que Jean-Luc Moudenc a fait du bon boulot au service de sa ville, qu'il saura rassembler demain l'ensemble de sa population. Et je pense qu'au-delà, ou bien au-delà d'entretenir un quelconque flou, on est sur une notion de rassemblement qui est l'essence même du mandat municipal. Et puis je suis heureux que La République En Marche en vienne à se ranger derrière les qualités d'un homme de droite.
Est-ce qu'au niveau national, il n'y a pas quand même là de quoi alimenter l'idée que la droite est aujourd'hui incarnée par Emmanuel Macron ?
Non, la vérité de cette situation, c'est quoi ? C'est d'abord que La République En Marche est incapable de trouver des candidats en situation non seulement de gagner les villes, mais d'exercer comme il se doit le mandat de maire. Et vous savez, Toulouse est une ville qui a toujours rassemblé, les maires de Toulouse ont toujours rassemblé au-delà des étiquettes politiques. C'est l'essence même de la politique locale. C'est d'ailleurs peut-être pour cela, sûrement, que les maires sont plus considérés que les acteurs politiques nationaux, parce qu'ils sont capables, peut-être plus que les acteurs nationaux, de faire primer l'intérêt général sur l'intérêt sectaire d'un parti. Et donc, depuis des années, nous avons toujours déconnecté les étiquettes nationales.
Mais ce n'est pas de quoi quand même dérouter une partie des Français.
Non, ce que souhaitent demain les électeurs de Toulouse, les citoyens de Toulouse, les Toulousains, c'est avoir un maire qui soit capable de porter leur ville vers l'avenir. Et Jean-Luc Moudenc est tout à fait capable de le faire.
Quand on voit Emmanuel Macron partir à Mayotte, à La Réunion, et s'emparer de thématiques comme l'immigration, est-ce qu'il marche, ou donner une interview à Valeurs Actuelles par exemple, est-ce qu'il marche sur les plates-bandes de la droite et de l'extrême droite ?
Je ne pense pas qu'il marche sur les plates-bandes. Ce que je sais en tous les cas, c'est qu'il a une conception de la politique que je déteste. C'est une conception de petit commerçant de la politique. Il considère au fond qu'il suffit de parler pour occuper les esprits, puisque sur tous ces sujets, il n'a fait aucune proposition. Il est allé à Mayotte pour se mettre en scène, pour attiser des électorats en effet. Il est là en répondant de manière commerciale à des petits secteurs électoraux, pas du tout pour chercher des solutions. Et surtout, je trouve qu'en agissant comme cela, il n'incarne pas ce qu'est véritablement la fonction de rassemblement d'un président de la République.
Vous êtes le numéro 3 du parti Les Républicains, secrétaire général. Vous avez 33 ans, vous êtes très jeune. Comment est-ce que vous comptez reconstruire votre formation politique pour incarner ce qu'on appelle une alternance ?
Avec beaucoup d'humilité d'abord, parce que je ne viens pas du sérail, je n'ai pas un profil qui aurait dû me permettre aujourd'hui d'être secrétaire général de mon mouvement politique. J'ai beaucoup hésité avant d'accepter, parce que c'est pas ma culture initiale. Je l'ai fait parce que je ne veux pas avoir à choisir éternellement entre le projet de société injuste et fataliste porté par Emmanuel Macron et le projet de société violent porté par Marine Le Pen. Je ne veux pas que moi, à 33 ans, ma génération soit éternellement condamnée à devoir choisir entre le pire et le pire. Et je pense que la droite, comme la gauche d'ailleurs, pour tout vous dire, a quelque chose à dire aux Français. Que nous ne pouvons pas rester éternellement dans cette alternative entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Et pour cela, il faut se retrousser les manches pour que la droite réincarne quelque chose dans le pays. La tâche n'est pas simple. J'aurais pu ne pas m'y coller. Nous allons le faire collectivement et c'est par les idées que nous le ferons.
Alors, il y a aussi une question d'âge, puisqu'on les militants chez LR, mais c'est vrai aussi à gauche, on fuit le parti. 90% de vos militants aujourd'hui ont plus de 65 ans. Comment on fait pour faire revenir des militants, des adhérents qui soient en âge de reconstruire un petit peu cette formation politique-là ?
On le fait d'abord en étant peut-être un peu moins arrogant que nous l'avons été à droite depuis quelques années. Nous le faisons en reprenant le chemin des idées, en étant capable sur des questions essentielles, y compris des questions que l'on a pu traiter, du handicap, des violences conjugales, de la place des jeunes dans notre société, de dire ce qu'est une vision de droite qui respecte chacun mais qui donne un avenir. Moi, je suis député du Lot. Le Lot est une terre de gauche. J'ai toujours été élu dans une terre de gauche. Et pourtant, tout le monde dans le Lot connaît mon étiquette politique. Ça veut bien dire que lorsque la droite redevient populaire, lorsqu'elle est capable de ne pas s'obséder seulement sur les questions d'immigration et de sécurité, alors elle redonne du sens à un message politique. Et si je suis député du Lot de droite dans une terre de gauche, c'est pas parce que je suis un type génial. C'est simplement parce que le message que je porte d'une droite populaire et humaniste a réussi à convaincre y compris des femmes et des hommes qui n'ont pas exactement ma sensibilité politique. Vous savez, si je me suis engagé en politique, c'est pour rassembler. C'est pour convaincre le plus possible les Français, et pas pour gérer une petite boutique planquée en second wagon d'Emmanuel Macron ou en second wagon de Marine Le Pen. Je veux que la droite soit une locomotive.
Vous parlez de handicap, de violence conjugale. Est-ce que vous, c'est pas une manière de s'emparer des thématiques de gauche? Est-ce que vous triangulez pas, vous aussi, sur ces questions-là?
Ce ne sont pas des thématiques de gauche. Ici, je prends ces deux sujets, celui du handicap. La dernière grande loi portée dans notre République, c'est celle de 2005, portée par Jacques Chirac. La dernière immense avancée sur les violences conjugales, c'est l'IVG, portée par Simone Veil. Et la loi de 2010 sur les ordonnances de protection. Et puis dernièrement, la loi que j'ai portée à l'Assemblée nationale, qui a été votée à l'unanimité. La droite a toujours traité des sujets sociaux, et elle l'a fait souvent avec succès. Il faut que nous renouions avec cet ADN de la droite républicaine et de la droite qui est capable de rassembler.
Est-ce qu'il n'y a pas un changement de nature du militantisme aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus fugace que ce qu'il était par le passé? Et autrement dit, est-ce que les partis politiques ne sont pas des structures dépassées?
En quelques mots, s'il vous plaît.
C'est une question que je me suis aussi posée lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien de pire dans une grande démocratie comme la nôtre de perdre les idées. Nous sommes en train de perdre les idées dans le débat politique. Et il faut des partis refondés, rénovés, pour réincarner des idées, car c'est de là que naît la démocratie et que nous éviterons une fois de plus d'avoir une alternative stérile entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Merci Aurélien Pradier, député du Lot, je le rappelle, secrétaire général de Les Républicains, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Après avoir traversé l'ouest du pays, la perturbation pluvieuse atteindra Rhône-Alpes et la Provence. Au nord de la Seine, là, le ciel s'annonce nuageux mais sec. Quant aux températures, elles afficheront entre 13 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Anne Fauquemberg pour le prochain journal de la rédaction.